Bonjour, je vous parle depuis Gelnhausen, en Allemagne, où avec Sandra nous sommes depuis quelques jours. Il fait vraiment froid, de la neige, là je regarde dehors, on a à peu près 10, 20, 30 cm de neige, il fait moins 10, entre moins 10 et moins 5 degrés. Je dois vous avouer qu'il fait pas très chaud. J'imagine que chez vous à La Réunion il doit faire bien chaud, et j'espère que vous arriverez quand même à être attentif et que vous aurez de l'aération dans la salle de culte, afin que vous puissiez être attentif à ce message par rapport au texte de Matthieu 7, qui est le texte d'aujourd'hui. Matthieu 7, versets 1 à 12. J'aimerais commencer d'abord par vous saluer. J'espère que vous allez bien. J'espère que ces temps sont des temps bénis pour vous. Et j'aimerais prier maintenant. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cet honneur que tu me donnes de pouvoir partager avec nos frères et nos sœurs ici à l'île de la Réunion, dans la petite église de Saint-Denis, de l'église du Nazaréen. Que ce temps puisse être un temps d'encouragement, que nous puissions ensemble méditer ta parole, ta grâce, ton amour et ta vérité. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour les enseignements que tu donnes à ton peuple, que tu donnes à tes enfants, à travers l'Évangile, à travers cet Évangile qui a été transmis à travers plus de 20 siècles maintenant, et qui est toujours présent, toujours une source d'enseignements fondamentaux pour le monde entier. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons commencer notre lecture, ce sermon aujourd'hui, par le premier texte, qui est les versets 1 à 6 du chapitre 7 de Matthieu, ne jugez pas. Les chapitres 1 à 12, les chapitres, chapitre 7, versets 1 à 12, pardon, nous parlent de deux éléments importants. D'abord, 1 à 6, la relation à notre prochain par rapport aux problèmes qu'il peut y avoir, par rapport à des choses, et donc qui peuvent faire naître un jugement ou un besoin de correction parfois. Comment faire cela? Comment ne pas le faire? Et c'est le sujet des versets 1 à 6, donc un problème dans la relation avec notre prochain. Versets 7 à 11 vont être par rapport à un problème que nous puissions avoir et comment réagir dans notre relation avec Dieu. Et la réponse sera ne pas être silencieux, mais avec confiance de demander. Et on aura un résumé en quelque sorte au verset 12 de cette attitude par rapport aux soucis que nous pouvons avoir dans ce monde, que ce soit par rapport à notre prochain, par rapport à notre vie personnelle ou dans notre relation avec Dieu. Et ce sera la règle d'or qui sera d'avoir une attitude envers les autres qui est celle que nous aimerions que les autres aient envers nous. Alors nous allons commencer par les versets 1 à 6 que j'aimerais vous lire maintenant. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Parole de notre Seigneur. Les versets 1 à 2 nous enseignent ou nous encouragent à ne pas juger ou faire attention comment nous jugeons parce que il nous sera mesuré de la même façon, c'est-à-dire que on va nous juger de la même façon. Si nous sommes durs avec les autres, on sera dur avec nous. Ça, c'est l'aspect négatif. Sous l'aspect positif, on trouvera au verset 12, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Mais là, au niveau négatif, déjà, ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Ce verset peut être surprenant quand nous voyons, par exemple, au chapitre 18, versets 15 à 17, comment Jésus nous encourage quand un frère ou une sœur dans une communauté, dans notre communauté de foi, a péché, comment venir voir cette personne et la corriger. D'abord en cela seul, ne pas faire un commentaire avec les autres. Ensuite avec deux personnes. Ensuite avec toute la communauté, s'il y a besoin d'aller jusque-là. Mais en général, toujours commencer par un à un. Quand vous critiquez quelqu'un seul à seul, avec grâce, C'est beaucoup plus difficile à faire. Souvent, on aimerait bien critiquer les autres quand il y a d'autres avec nous. C'est plus facile. Il y a l'effet de groupe où on se sent plus fort. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous encourage à faire. Le premier point, c'est ne jugez pas. Ensuite, pourquoi ne pas juger en général? Les versets 3 à 5 nous l'expliquent. Parce que souvent, les choses que nous voyons dans l'œil de notre frère qui ne vont ou de notre sœur qui ne vont pas, eh bien, il y a des choses dans notre œil aussi qui ne vont pas et qui peuvent être plus importantes. La comparaison est entre une paille et une poutre. Une paille étant beaucoup plus petite qu'une poutre. Alors le terme paille, en grec, peut être aussi traduit par le mot copeau, copeau de bois. Et l'aspect intéressant, c'est que et le copeau de bois et la poutre sont des choses que Jésus connaissait très bien. Il avait été charpentier jusqu'à l'âge de 30 ans, et les copeaux et les poutres étaient des réalités journalières pour lui. Il les voyait et il avait une idée très claire de la différence de taille. Il avait aussi une idée très claire du fait que le copeau est un petit morceau qui a été coupé de la poutre. Et donc, c'est de la même matière. Par conséquent, on peut appliquer aussi et prendre conscience d'une chose, c'est que les péchés que l'on voit chez les autres le plus clairement sont parfois les péchés que nous-mêmes nous avons. On trouvera par exemple que cette personne est trop ambitieuse. Si on trouve que les gens sont trop ambitieux autour de nous, essayons de nous demander si nous-mêmes nous n'avons pas tendance à être ambitieux, d'une manière négative. Hein, je dis, avoir des ambitions avec Christ est toujours très important, mais par exemple, l'ambition d'être au-dessus des autres, l'ambition d'un chrétien est d'être un serviteur avant tout. Être serviteur des autres, si celui qui veut être grand, qu'il soit votre serviteur. Donc ça, c'est une ambition qui est très bonne, de vouloir servir les autres. Mais l'ambition d'être très riche ou de pouvoir avoir un pouvoir où on va impressionner les autres, ça, si vous critiquez les autres d'avoir cette ambition, je dirais, et vous, est-ce que vous n'avez pas cette ambition? Ça peut être une tentation. Ne pas voir chez les autres ce qui est sans se rendre compte que chez nous, il y a des problèmes. C'est un problème classique et important. Et je vous invite à y réfléchir. Ensuite, il ne nous est pas dit dans ce texte que quand on voit un problème chez l'autre, il faut le laisser. Ce serait un manque d'amour. Si vous voyez qu'il y a une paille dans l'œil de votre frère, ou de votre sœur, ou un copeau de bois, ou une particule qui fait mal, vous ne voulez pas que votre frère ou votre sœur ait mal. Vous voulez le bien pour l'autre. Mais afin d'être efficace, de pouvoir retirer cela avec une pincette et non pas avec un marteau, encore faut-il que vous ayez clarifié votre vue. Encore faut-il que vous ayez purifié votre œil. Et c'est là tout le point de ce texte des versets 3 à 5. Apprenez à laisser Dieu vous enseigner et vous critiquer. Pour pouvoir critiquer les autres, il faut avoir appris à être critiqué. Si nous n'avons pas appris à recevoir les commentaires des autres et les critiques, eh bien, nous avons peu de chances de pouvoir recevoir les autres. Par exemple, je vous dirais, quand je prêche, des fois, j'essaye d'écouter quand il y a des commentaires. Des fois, vous savez, me faire des commentaires par rapport à une façon de faire. Une personne, par exemple, m'avait dit, Stéphane, tu devrais lire le texte biblique avant de pouvoir le présenter. Donc, j'ai essayé d'adapter. Une autre personne m'a dit, tiens, la façon de faire le texte par écrit, tu devrais peut-être changer de police de caractère. Et j'ai essayé, dans la mesure du possible, de mettre en pratique, de recevoir ces commentaires et de pouvoir les traduire dans la façon de prêcher. Mais bien sûr, c'est dans tous les domaines de notre vie que ces genres de commentaires sont là. Ma question, c'est est-ce que vous aussi, vous êtes capable et de recevoir les critiques des autres par rapport à ce que vous faites? Est-ce que vous êtes en mesure de les recevoir de manière constructive? Afin que vous puissiez vous-même apprendre à présenter des commentaires, des critiques avec douceur, amour et avec un esprit doux, afin que les autres puissent les recevoir. On n'est pas là pour se donner des jugements, comme on dit, à l'emporte-pièce, c'est-à-dire toi t'es nul, ou t'y arriveras jamais, ou tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, mais avoir des paroles plus douces, avoir des paroles d'encouragement d'abord, apprendre à encourager, et ensuite, quand on a des critiques à faire, les faire avec douceur. C'est un point important, vraiment, pour que nos communautés grandissent avec amour et grâce. Le verset 6 paraît contradictoire avec cet enseignement du début, paraît paradoxal. Il nous est dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. » On nous parle de ne pas juger ou bien de le faire avec grâce en apprenant à nous-mêmes reconnaître nos fautes ou les choses que nous avons à corriger avant d'essayer de corriger les autres. Et là, il nous est dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. » Ce verset 6, qui a l'air si différent des versets précédents, 1 à 5, n'en est pour autant pas séparé. Ne pas donner les choses saintes aux chiens. Les chiens, c'était les animaux qui étaient considérés impurs au temps de Jésus. C'était des animaux qui vivaient ensemble, qui avaient souvent des maladies, qui mangeaient des déchets, les poubelles, les choses que les gens jetaient, ou des animaux morts. Et on essayait de s'en éloigner autant que possible. On leur jetait des pierres, on les laissait au loin. Ce n'étaient pas les animaux familiers que nous avons parfois dans notre société moderne, avec qui on va jouer, qui vont être des compagnons. C'était plutôt des groupes, un peu comme le groupe de chiens qu'on a près de l'église. Le soir, quand on rentre vers 1h du matin, il y a un groupe de 2-3 chiens qui courent après les voitures et qui sont souvent en mauvaise santé. C'est un peu plus des chiens comme ça dont on parle ici dans le texte. Des chiens qui ne sont pas des amis, qui peuvent être agressifs, qui peuvent être malades, qui peuvent avoir la rage, et qui sont vraiment impurs. Et de même, les pourceaux, à l'époque de Jésus, étaient vraiment considérés comme impurs, et on ne voulait avoir aucun contact avec eux. Donc, par conséquent, le verset 6 parle du fait qu'il ne faut pas donner de choses saintes ou des perles à ces chiens ou à ces pourceaux, parce qu'on peut être détruit par eux. On ne veut aucun contact avec ces animaux. De même, parfois, il y a des personnes avec qui on va vouloir partager l'évangile, on va vouloir donner des bonnes choses, et les personnes n'en voudront pas. Jésus nous dit alors, comme nous le pourrons le lire dans le chapitre 10 de Matthieu, au verset 14 et 15, « Si des personnes ne reçoivent pas vos commentaires, l'évangile, ne veulent pas entendre parler de Dieu quand vous en parlez, secouez vos sandales, vos chaussures, pour en laisser tomber la poussière et partez. » On peut aussi comprendre, en relation avec les premiers versets, que donner des conseils à des personnes que nous rencontrons est quelque chose de précieux. Un conseil discerné avec amour est précieux. La façon la plus importante de grandir dans la foi, c'est d'apprendre à recevoir des conseils. Si, ou des commentaires, des critiques, si nous n'apprenons pas à recevoir avec grâce et discerner avec Dieu ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers les critiques que nous recevons, la plus grande chance que nous avons, c'est que nous ne grandirons pas dans la foi, parce que le Seigneur veut utiliser les gens autour de nous pour que nous apprenions. Cela ne veut pas dire que toutes les critiques que nous recevons sont bonnes. Certaines seront bonnes, d'autres seront mauvaises, et nous devons apprendre à discerner. Ce qui est important, c'est qu'on puisse comprendre dans ce verset 6 qu'il y a quelque chose de saint dans les commentaires pour essayer d'aider un frère ou une sœur à être libéré d'une paille ou d'un copeau qu'elle ou qu'il a dans l'œil. Et l'enseignement, c'est, quand vous voulez donner des conseils, rendez-vous compte si les personnes les reçoivent. S'ils ne reçoivent pas vos premiers conseils, ne continuez pas. Ne continuez pas, abandonnez cela au Seigneur, bénissez la personne, priez pour la personne si besoin, mais ne multipliez pas les conseils envers des personnes qui ne sont pas réceptives. Nous passons maintenant à la deuxième partie de notre texte, les versets 7 à 11. Demandez, cherchez, frappez. Les versets 1 à 6 étaient liés à la relation à un frère ou à une sœur par rapport à des critiques, des choses négatives que nous voyons et qu'est-ce que nous pouvons faire. Les versets 7 à 11 parlent de questions, de difficultés que nous pouvons avoir et comment cela peut être vécu dans la relation avec Dieu. Le conseil de notre Seigneur Jésus est simple. Demandez, cherchez, frappez. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ce verset 7 nous invite vraiment à chercher la relation avec Dieu, à nous tourner vers Dieu pour recevoir. J'aimerais vous lire maintenant l'ensemble des versets 7 à 11. 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Nous voyons dans ce texte vraiment un encouragement à nous tourner vers Dieu, qui est un Père bon, à chercher, à frapper, à demander. Demander, ça veut dire que on s'attend à tout recevoir. On demande quelque chose, on considère que c'est l'autre qui peut nous donner. Chercher, ça veut dire qu'on a des efforts à faire. Chercher, ça veut dire que on va essayer de trouver une façon de recevoir ce dont nous percevons que nous avons besoin. Frapper, c'est encore plus délicat, si l'on peut dire. Frapper, on reconnaît que c'est l'autre qui va nous ouvrir, ce qui veut dire qu'on va chercher la relation. Quand on frappe à la porte de quelqu'un, c'est l'étape qui précède la demande. On frappe à la porte, est-ce que tu veux bien m'écouter? Et ensuite, on pourra peut-être poser une question. Donc, c'est vraiment toute cette démarche de se tourner vers Dieu pour chercher, pour trouver. Des fois, c'est vraiment de manière passive de dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Dans ce domaine, je ne peux pas y arriver. D'autres fois, c'est chercher, c'est très dynamique, où on aura notre part à faire pour que Dieu puisse répondre. Et la promesse du verset 8, c'est que quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Celui qui a cette attitude de se tourner vers la solution, de ne pas dire mes problèmes sont trop gros, mais de dire comment est-ce que je peux trouver une solution avec Dieu, celui-là, Dieu va le bénir. Et un point qui est important à souligner dans les versets 9 à 11, c'est que il n'est pas fait mention de choses complexes comme la personne qui va demander une immense maison, la personne qui va demander une armée, mais c'est par rapport à demander à manger. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Le pain était la base de la nourriture au temps de Jésus, et demander du pain, c'est demander à manger quand on a faim. Et les pains de l'époque de Jésus étaient vraiment simples, ils n'avaient pas de décoration comme certains de nos pains avec ces petits traits qu'on a dessus souvent. Ils étaient vraiment très simples, et ils ressemblaient parfois à des pierres. Donc une pierre, en apparence, peut ressembler à un pain, une grosse pierre, et donner une pierre à son fils, ça serait comme de dire à son fils, en apparence, je réponds à ta demande, mais en réalité, ça ne correspond pas. De même qu'un père ne ferait pas ça, il ne donnerait pas un serpent si son fils, son enfant, lui demande un poisson. Parmi les poissons, il y a les poissons longs qu'on appelle anguilles, et un serpent pourrait ressembler à un poisson. Mais non seulement le serpent n'est pas de la nourriture qu'on mange en général, mais en plus il peut être dangereux car il peut mordre s'il est venimeux et vraiment nous empoisonner. Donc c'est vraiment souligné dans les versets 9 à 10 que Dieu, qu'un père, quand on lui demande à manger, ne donne pas quelque chose qui ressemble à de la nourriture, et ne donne pas quelque chose qui est mauvais, comme un serpent. Si nous qui sommes méchants en comparaison de Dieu, parce que nos intentions bonnes ne sont que très modestes, très petites par rapport à l'amour de Dieu, qui lui est parfait et bien plus grand, à combien plus forte raison notre Père, qui est dans les cieux, donnera de bonnes choses à qui les lui demande. L'encouragement de ces versets est vraiment très clair. Ayez confiance que Dieu veut votre bien et tournez-vous vers Dieu pour lui demander, avec foi et espoir. D'abord par rapport à vos besoins de tous les jours, que Dieu va les combler, que Dieu va être fidèle. Parfois dans notre monde modèle, nous n'avons aucun problème pour avoir assez à manger. Et nous pouvons croire que c'est par nos forces que nous recevons ce dont nous avons d'abord besoin et donc on va demander de l'aide à Dieu seulement pour les choses secondaires, pour avoir un bateau, pour avoir une nouvelle voiture, pour avoir un nouvel ordinateur. Ces choses, même si elles nous sont utiles pour notre travail, si ça peut être des sources de joie pour nous, ne sont pas fondamentales pour que nous puissions continuer à vivre. Et nous avons à apprendre, comme ce texte nous y invite, à rendre grâce à Dieu peut-être, à demander que Dieu continue à prendre soin de nous et à reconnaître que toutes les choses viennent de lui d'abord. C'est Dieu qui est le créateur de l'univers. Il n'y aurait pas de pain, il n'y aurait pas de poisson, il n'y aurait pas de nourriture sans que Dieu ait créé cette terre avec toutes les richesses qui y sont. Est-ce que cela veut dire aussi que nous n'allons pas demander à Dieu de l'aide pour les choses plus complexes? Pour entrer dans telle école? Pour avoir de l'aide pour telle situation? Bien sûr que si. Demandez avec foi. Et parfois, ce sera plus l'approche de chercher qui sera que Dieu nous encouragera à faire, c'est-à-dire être très actif. Parfois, ça sera simplement demander de manière passive. Parfois, ça sera frapper avec la confiance que Dieu va nous répondre. Ces versets 7 à 11 vraiment encouragent à nous tourner vers Dieu pour tous les besoins que nous avons. Nous tourner vers Dieu avec confiance, avec la confiance qu'il va nous donner, parfois directement par miracle, mais le plus souvent, Dieu va nous répondre à travers les personnes qui sont autour de nous, à travers les contacts, à travers de petites choses de la vie de tous les jours, une émission qu'on va regarder, un film qui va nous enseigner, une personne qui va nous donner une parole qui est nécessaire, ou un conseil, ou un coup de main. Toutes ces façons sont des façons que Dieu peut utiliser. Alors que nous finissons le texte d'aujourd'hui, nous avons le verset numéro 12. Dans ce verset numéro 12, on a la mention de la règle d'or. Elle s'appelle la règle d'or, ce verset s'appelle la règle d'or parce que on avait un empereur du 3e siècle après Jésus-Christ, en l'an 222, il était devenu empereur, qui s'appelait Alexandre Sévère. Cet empereur n'était pas encore chrétien, mais avait beaucoup de respect pour les chrétiens et était très attiré par l'enseignement de Jésus. Et il trouvait le verset 12 tellement beau, tellement profond, qu'il l'avait fait écrire en lettres d'or dans sa chambre. Et on pense que c'est de là que vient ce nom de règle d'or. J'aimerais vous le lire. Verset 12. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. » Ce verset 12 résume la loi. Il y a un résumé un tout petit peu plus long que Jésus donne dans l'évangile de Matthieu. On le trouvera au chapitre 22, quand un enseignant de la loi va demander à Jésus quelle est la loi la plus importante, quel est le commandement le plus important. Jésus répondra, est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait dire ce que Jésus répond? Il répond en deux parties. La première partie, c'est « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Et la deuxième partie, juste après, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ces deux parties sont vraiment au cœur de la loi. Et la règle d'or est une autre façon de dire la même chose. Aimer son prochain, c'est faire pour les autres ce que nous aimerions qu'on fasse pour nous. C'est aussi aimer Dieu, parce que Dieu a créé l'humanité. Et apprendre à aimer notre prochain, c'est une façon d'aimer notre Dieu aussi, dans tout ce qu'il a fait de bon. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Cet enseignement du verset 12 peut être compris à trois niveaux, à mesure que nous approfondissons notre amour du prochain. Le premier niveau est un petit peu le niveau qu'on voit envers des enfants. On va vouloir pour l'autre ce que nous aimons. Par exemple, un enfant va avoir un jouet et va être prêt, à un moment, quand il est bien disposé, à prêter son jouet à son frère, à sa sœur ou à un copain de jeu. De même, nous, en tant qu'adultes, on va être invités à être généreux avec les choses qui sont bonnes pour nous, de voir si elles sont bonnes pour les autres aussi. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'apprendre à reconnaître que les autres ne veulent pas forcément les mêmes choses que nous. Ce que nous voulons que les hommes fassent pour nous, que les êtres humains fassent pour nous, c'est de discerner ce que nous aimons et qu'ils nous aident à les recevoir ou à les vivre, ces bonnes choses. De même, nous sommes invités à discerner ce que les autres apprécient. Et donc, on va pouvoir vivre cette loi à un deuxième niveau en discernant ce que l'autre veut de meilleur. Par exemple, si quelqu'un n'aime pas du tout faire du bateau, je ne vais pas lui offrir de venir sur mon bateau avec moi. Ou si quelqu'un n'aime pas du tout regarder un film, je ne vais pas l'inviter à regarder un DVD. Mais je vais essayer de discerner ce que la personne apprécie. Par exemple, si c'est un curry spécifique que la personne aime et que vous savez cuisiner, vous allez essayer de faire pour l'autre ce curry spécifique. Ça, c'est le deuxième niveau. Un discernement de ce que l'autre personne aime et essayer de le faire pour l'autre. Le troisième niveau, c'est apprendre à discerner non seulement ce que la personne veut de manière superficielle, mais ce qu'elle désire au plus profond d'elle-même. Ce qui est le plus positif, ce qui a le plus de sens dans la relation avec Dieu, car notre but, c'est d'être avec Dieu. Donc, ce que la personne a besoin, parfois, ce que nous disons vouloir n'est pas ce dont nous avons vraiment besoin. Le pire cas, c'est par exemple un drogué qui va dire « Ce dont j'ai vraiment besoin, c'est ma drogue. » Ce dont la personne a vraiment besoin, si on aime cette personne, c'est d'être débarrassé de cette drogue et de trouver en Dieu la force de pouvoir trouver du sens à sa vie, de pouvoir communiquer, de pouvoir trouver une réponse à ses émotions négatives parfois. Ça, c'est le troisième niveau de la règle d'or. Apprendre à vouloir pour les autres ce qui est vraiment bon pour eux. Ce que, ou bien des fois ils désirent, ou ce que Dieu désire pour eux. Et cela demande un discernement spirituel aussi. Ça, c'est le troisième niveau dans lequel on pourra intégrer la dimension d'annonce de l'évangile. Car l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Comment Dieu veut nous libérer de tout ce qui nous enchaîne dans ce monde, par la foi, par la marche dans la sanctification, par la marche avec l'Esprit de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu vive en nous et nous libère de toutes les ténèbres de nos vies, que nous puissions vivre une vie pleine, paisible et confiante avec notre Dieu. Ce que j'aimerais faire alors que nous finissons ce sermon, c'est vous inviter à méditer dans votre vie. Est-ce que vous avez appris à vouloir le bien pour les autres? Est-ce que vous êtes au premier niveau? Ou vous apprenez juste à être généreux avec les autres dans le sens où ce que vous aimez, vous allez essayer de le partager avec les autres et vous voulez que les autres aiment la même chose que vous? Êtes-vous au deuxième niveau? Est-ce que vous avez appris à discerner ce que l'autre personne aime? Est-ce que vous avez déjà commencé à avancer vers le troisième niveau? À vouloir vraiment le meilleur pour l'autre et chercher à discerner dans la prière vraiment ce que Dieu veut pour une personne et d'essayer de faire pour cette personne vraiment ce qu'il y a de meilleur. Où en êtes-vous? Avez-vous aussi appris à donner des conseils avec grâce, comme nous en parlions au verset 1 à 6? Est-ce qu'il y a une poutre dans votre œil? Est-ce qu'il y a des défauts que vous voulez corriger chez les autres, alors que peut-être il y a un défaut chez vous? C'est une question qui est importante à se poser pour vous et pour moi, pas seulement au début de son cheminement de foi, mais de manière régulière, de demander à Dieu, « Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui te déplaît chez moi? Est-ce qu'il y a quelque chose que je vois chez les autres, que je veux corriger chez les autres, mais que toi, tu aimerais que je corrige chez moi, que j'apprenne à changer ?» J'aimerais que nous finissions par une minute de prière en demandant à Dieu, que vous puissiez demander à Dieu, « Qu'est-ce que, Seigneur, tu aimerais que j'améliore chez moi, pour chacun d'entre nous ?» C'est une prière que je vous invite chacun d'entre vous à faire et que nous puissions la faire ensemble. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui te déplaît chez moi? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais changer afin que je brille de ta lumière? Prions ensemble. Seigneur, nous te donnons cette minute que nous puissions prier et t'écouter maintenant. Et ensuite, je finirai par un temps une prière simple. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Merci de nous aider à voir s'il y a des poutres dans notre œil et à les enlever avec grâce et foi, parce que les enlever veut dire qu'il faut qu'on ait confiance en toi. Ça va changer notre façon de voir aussi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Apprends-nous à voir aussi les copeaux, les petites pailles dans l'œil de notre frère ou de notre sœur, et à les aider gracieusement, avec un esprit de douceur, et à être prêt à aider la personne à changer s'il y a besoin. Pas seulement donner des jugements durs et amers, mais vraiment des paroles d'encouragement et un désir qu'ensemble nous avancions, que nous apprenions à nous aimer les uns les autres. Seigneur, je te prie que tu bénisses toutes les personnes présentes ici aujourd'hui. Bénis la petite Héloïse et Frédéric qui ont eu l'école du dimanche avec les autres enfants peut-être qui étaient avec eux. Bénis Anise, Dominique, Alexandre, Juliette, Pierre. Bénis Laurence. Bénis Colline, Seigneur. Bénis Rémi, ses enfants. Bénis Seigneur Jésus-Christ, toute personne ici présente. Glorifie ton nom dans nos vies, apprends-nous à aimer. Nous ne sommes pas là pour nous critiquer les uns les autres, nous sommes là pour nous apprendre à nous encourager. Aide-nous à avoir cet esprit de douceur, de grâce que tu avais, Seigneur Jésus-Christ, avec tes disciples, qui avaient du mal à comprendre tes enseignements, mais que tu as gardé avec toi, avec qui tu as vécu, partagé, que tu as encouragé, enseigné. Apprends-nous, Seigneur, à vivre une communauté gracieuse. Une communauté joyeuse. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres, à grandir ensemble dans ta lumière, Seigneur Jésus-Christ. Nous te remettons cette semaine, qu'elle soit pleine de toi, de tes enseignements,